Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous écoutez Bibliosphère, bienvenue dans l'émission animée par le réseau des bibliothèques de la ville d'Angers. Toutes les deux semaines sur Radio G, le mercredi à 17h, vous retrouverez l'actualité du réseau. Mais il y a les bibliothèques et aussi les ludothèques avec des lectures, des jeux et bien d'autres propositions. Car notez bien que les bibliothèques sont toujours ouvertes et elles viennent directement dans vos oreilles pour garder le lien avec vous, lecteurs et lectrices. Pour retrouver les émissions précédentes, vous pouvez aller sur le site de Radio G à la page de Bibliosphère. Aujourd'hui, l'émission est présentée par Pascal. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Responsable action culturelle et communication du réseau des bibliothèques. Et il y a aussi Florence. Bonsoir,
bonsoir.
Florence, qui est bibliothécaire à la médiathèque Toussaint ainsi qu'à la bibliothèque Fratellini.
C'est ça.
On salue aussi Amélie qui devait être présente avec nous et même si elle n'est pas derrière les micros, elle a beaucoup œuvré pour le programme de cette émission. Au programme de cette deuxième édition de Bibliosphère, il y aura des BD, des lectures. Et c'est surtout une émission très gourmande qui s'annonce, je crois. J'ai pu jeter un œil sur le programme.
C'est tout à fait ça.
Mais on commence avec les actus du réseau des bibliothèques angevines et c'est avec Pascal.
Oui, nouveau confinement oblige. On a forcément des actualités, des choses à dire. C'est-à-dire que malgré ce confinement, voilà, juste dire que toutes les bibliothèques et toutes les ludothèques sont bien ouvertes et même très ouverte parce que, par exemple, à la bibliothèque Toussaint, l'espace jeunesse, qui normalement n'ouvre qu'à 16h le mardi, est ouvert tout le mardi, puisqu'on n'accueille pas de classe ni de groupe. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes toujours paralysés, par contre, au niveau informatique. Ça veut dire qu'on prête manuellement 3 documents sur une carte, donc à tout, une carte de bibliothèque. Si vous n'avez pas de carte, vous souhaitez faire un nouvel abonnement, c'est aussi possible. C'est gratuit, on vous fait une carte provisoire. On espère, dans les semaines qui viennent, pouvoir retrouver notre logiciel. Ça, c'est forcément très attendu. Et en attendant, on a quand même pu créer depuis, parce qu'on disait qu'on peut retrouver l'information sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site de la ville d'Angers. On a le lien, si vous cliquez sur « Bibliothèque municipale », on a une nouvelle page qui est hébergée en fait sur le site patrimonial qui s'appelle Comulis de la bibliothèque municipale, qui est un site, donc c'est aussi l'occasion, si vous ne connaissez pas, de le découvrir, qui permet de justement découvrir le fonds patrimoine et le fonds bibliophile, qui est très très important, avec un certain nombre d'articles, d'expositions virtuelles, et notamment actuellement la bibliothèque à l'exposition Jean-Adrien Mercier et fait un focus sur cet artiste. Voilà, donc une nouvelle page qui permet d'avoir les informations. Les petites adaptations, c'est que la bibliothèque de la Roseraie est toujours sur rendez-vous, mais on peut y aller. Et la bibliothèque des Justices qui est en travaux, toute la maison de quartier est en travaux. Donc jusqu'au 13 avril, elle a une petite semaine de fermeture. Et à partir du 13, toute la maison de quartier va aller en fait au rez-de-chaussée dans la salle de spectacle. Et on vous propose une petite bibliothèque éphémère avec une collection de livres et de presse empruntables. Et vous pourrez y venir aux horaires qui sont proposés.
Et par rapport à pouvoir venir, moi la question que je me pose, donc les bibliothèques, la médiathèque sont ouvertes. Ça veut dire qu'on peut y rester comme auparavant? On a le droit de s'installer pour lire des livres, des choses comme ça? Ou c'est passe son empreinte?
Non. C'est-à-dire que la bibliothèque Toussaint permet au rez-de-jardin de s'installer pour lire ou travailler sur place. Dans certains quartiers, quand il y a très peu de monde, certains peuvent rester un petit peu sur place, mais de façon globale, c'est surtout pour le prêt et le retour des documents. Voilà, c'est un peu dégradé, un peu contraint en ce moment.
Ce qui est déjà beaucoup.
Mais c'est, on est ouvert, on est heureux d'accueillir. Et puis, comme je disais, on a l'exposition Mercier sur la partie illustrateur qui est donc à la bibliothèque Toussaint. Et puis, on a également la suite, je dirais, de l'exposition « Je lis dans mon quartier » qui était à la bibliothèque Nelson Mandela, qui est dans la maison de quartier, pas très loin, Haute-Saint-Aubin, qui est aussi une très belle exposition de photographies sur les lecteurs donc, du quartier, avec donc, la photographe Marine Auger qui a réalisé ces clichés vraiment très beaux.
D'autres actus ou c'est déjà pas mal?
Alors, on est un petit peu obligé. On avait des visites VIP qu'on proposait pour visiter les coulisses de la bibliothèque Toussaint. Donc, on suspend un petit peu au mois d'avril, forcément, puisque, même si on est en petite jauge, on va reporter. Mais on a eu quand même des auteurs et des poètes qu'on a pu recevoir avec les classes qui étaient encore ouvertes et puis surtout faire des captations vidéo qui sont encore visibles sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller sur Facebook et Twitter, sur le site donc Bibliothèque. Et puis, par exemple, mardi 23 avril, on a des étudiantes de l'Université catholique qui présenteront pour les amateurs de livres d'art, les petites fées, donc ce sont des livres d'art d'artistes, on dit, du peintre Mérodac Janot et du poète Émile Boissier, voilà, qui seront présentés. Donc on mettra le lien pour ceux qui souhaitent suivre cette visioconférence.
Génial, merci beaucoup. Et les liens seront aussi dans la page du podcast de l'émission. Alors maintenant qu'on connaît les dernières actualités des bibliothèques, on pourrait peut-être connaître le programme de cette émission que vous n'avez pas souhaité révéler jusqu'ici. Pascal, Florence, comment fait-on ?
Eh bien, pour deviner la thématique, on va vous donner un premier indice. C'est un conseil de Madame de Sévigné, femme de lettres du XVIIe siècle, qui est connue pour sa correspondance avec sa fille. Alors écoutez bien. Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes. Le deuxième indice est un extrait musical 100% années 80.
J'ai tout mangé le chocolat.
Alors effectivement, c'est 13 années 80 et c'est les bêtises de Sabine Paturel.
Vous l'aurez donc deviné, en cette période de l'année où les œufs et autres lapins font leur chaud cacao, Bibliosphère dégaine aussi ses tablettes pour parler de la nourriture des dieux, modeste surnom donné par les Aztèques, au chocolat. Avec au copieux menu de notre mission chocolatée du jour, une pincée de jeunesse, un zeste de musique, une bonne grosse cuillerée de fiction adulte et un soupçon de cinéma. Bien mieux qu'un café gourmand, non ?
Alors c'est parti pour un tour en littérature jeunesse avec...
Un roman incontournable, je dirais même inoubliable, datant de 1964 de l'auteur britannique Roald Dahl, illustré par Quentin Blake. Charlie et la chocolaterie. Peut-être avez-vous vu l'adaptation cinématographique de Tim Burton ? Le film sorti en 2005 offre un rôle taillé sur mesure pour Johnny Depp. On y suit les aventures du jeune Charlie Bucket dans la chocolaterie de l'excentrique Willy Wonka. Moi, Willy Wonka, j'ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie cette année. Ces 5 chanceux seront initiés à tous mes secrets, à toute ma magie.
Alors, une petite lecture qu'on va vous proposer, si tout le monde est bien installé et prêt à écouter. Chapitre 2, la chocolaterie de Monsieur Willy Wonka. Le soir, après avoir mangé sa soupe aux choux noyés d'eau, Charlie allait toujours dans la chambre de ses 4 grands-parents pour écouter leur histoire et pour leur souhaiter bonne nuit. Un soir, en venant voir ces derniers, Charlie leur dit:
est-il bien vrai que la chocolaterie Wonka est la plus grande du monde ?
Si c'est vrai ! S'écrièrent-ils en chœur. Mais bien sûr que c'est vrai, bonté divine ! Tu ne savais donc pas ?
Elle est à peu près 50 fois plus grande que toutes les autres.
Et monsieur Willy Wonka est-il vraiment le plus habile de tous les fabricants de chocolat ?
Mon garçon, dit grand-papa Joe en se soulevant sur son oreiller, monsieur Willy Wonka est le chocolatier le plus fascinant, le plus fantastique, le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu. Je croyais que tout le monde savait cela.
Oh là là, je savais qu'il était célèbre, grand-papa Joe, et je savais aussi qu'il était très habile.
Habile ? S'écria le vieil homme, il est beaucoup plus que ça. C'est un magicien du chocolat, il sait tout faire, tout ce qu'il veut. Pas vrai, mes amis ?
Les 3 autres vieux se mirent à hocher doucement la tête et dirent : c'est absolument vrai, rien n'est plus vrai. Et grand-papa Joe s'étonna. Tu veux dire que je ne t'ai jamais parlé de monsieur Willy Wonka, de sa chocolaterie ?
Jamais !
Bonté divine ! Où avais-je la tête ?
Veux-tu m'en parler maintenant, grand-papa Joe, s'il te plaît ?
Mais certainement, viens t'asseoir près de moi sur le lit, mon petit.
Et écoute-moi bien. Ah, quel homme, ce monsieur Willy Wonka ! S'écria grand-papa Joe. Est-ce que tu savais, par exemple, qu'il a inventé à lui seul plus de 200 nouvelles variétés de chocolat, chacun fourré de façon différente, plus sucré, plus onctueux, plus délicieux les uns que les autres. Aucun autre chocolatier ne peut en faire autant. C'est la vérité, crie maman, grand-maman de Joséphine. Et il les expédie aux quatre coins de la terre, n'est-ce pas, grand-papa Joe ? C'est vrai, ma chère, c'est vrai. Il en envoie à tous les rois et à tous les présidents du monde entier. Mais il ne fait pas seulement des tablettes de chocolat. Mon Dieu, il fait mieux. Il a plus d'un tour dans son sac. C'est étonnant, monsieur Willy Wonka. Sais-tu qu'il a inventé un procédé permettant à la glace au chocolat de rester froide pendant des heures et des heures sans qu'on ait besoin de la mettre au frigo ? On peut même l'exposer au soleil toute la matinée. Un jour de grande chaleur, elle ne fondra pas.
Oh là là, mais c'est impossible ! Dit le petit Charlie en ouvrant des yeux tout ronds sur son grand-père.
Mais bien sûr que c'est impossible, s'écria grand-papa Joe. C'est même tout à fait absurde. Mais monsieur Willy Wonka le peut. C'est juste, approuvèrent les autres en hochant la tête. Monsieur Wonka le peut. Et puis, reprit grand-papa Joe en parlant très lentement pour que Charlie ne perde pas un mot de ce qu'il disait. Monsieur Willy Wonka sait faire des pâtes de guimauve parfumées à la violette et des caramels mous qui changent de couleur toutes les 10 secondes quand on les suce. Et des bonbons feuilletés qui fondent délicieusement dès qu'on les prend entre les lèvres. Il fabrique du chewing-gum qui ne perd jamais son goût. Et des ballons en pâte de fruits qui deviennent énormes quand on souffle dessus. Puis on les pique avec une épingle et on les avale. Et puis il a une méthode secrète pour faire de beaux œufs d'oiseaux bleus tachetés de noir. Et si on en prend un dans la bouche, il devient de plus en plus petit. Jusqu'à ce que, soudain, il ne vous en reste qu'un minuscule bébé oiseau tout rosé, en sucre, perché au bout de la langue. Grand-papa Joe se tut un instant pour se passer lentement le bout de la langue sur les lèvres. « Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. »«
Oh, moi aussi !» dit le petit Charlie. La suite de l'histoire « Charlie et le grand ascenseur de verre » a été écrite en 1972. Aux yeux de Roald Dahl, le jeune lectorat est le public le plus exigeant. Il a d'ailleurs expliqué « J'essaie d'écrire des histoires qui les saisissent à la gorge, des histoires qu'on ne peut pas lâcher. » Car si un enfant apprend très jeune à aimer les livres, il a un immense avantage dans la vie. Selon Roald, il faut pour cela avoir préservé deux caractéristiques fondamentales de ses 8 ans, la curiosité et l'imagination.
Et si tout ce sucre vous écœure, eh bien vous pourrez plutôt vous tourner vers la soupe aux frites de Jean Leroy et Ella Charbon, que l'on peut lire à partir de 2 ans. Une soupe délicieusement drôle et qui, je vous donne un indice, est verte et sans le poireau. Comme c'est bizarre. Ou alors vous pourrez manger une soupe aux cailloux, illustrée par Anaïs Vaugelane à partir de 4 ans, inspirée d'un conte traditionnel du même nom. Une recette simple, mais d'une grande profondeur. Et puis, il y a aussi le grand Tommy Ungerer, aussi grand auteur que Roald Dahl, qui a écrit le menu gargantuesque dans Le géant de Zeralda, un classique de 1967, dont voici quelques plats pour vous mettre l'eau à la bouche. Choucroute garnie, pâté en croûte, sauce raspoutine, croque-fillette, peut-être bien qu'on y trouve des ogres.
Miam!
Et si on faisait une petite pause musicale avec un choix non cacaoté, mais assumé, pour celles et ceux qui n'aimeraient pas le chocolat, on vous propose un titre de 1983 d'un groupe anglais nommé Toto Coelho. Et le morceau s'appelle « I eat cannibals », c'est-à-dire « Je mange des cannibales ». Une mise en abîme alléchante, n'est-ce pas ?
Feed on animals.
Vous écoutez Radio G sur le 101.5 FM et plus précisément, vous écoutez l'émission Bibliosphère, animée par le réseau des bibliothèques de la ville d'Angers.
Eh bien, on reprend notre aventure gustative avec un extrait de Chocolat, roman de l'anglaise Jane Harris, 1999, aux éditions du Quai Voltaire.
Je n'utilise que le meilleur. Les blocs de chocolat de couverture sont légèrement plus gros que des briques de maçonnerie. Une caisse de chaque par livraison, et je me sers des trois variétés, noir, au lait et blanc. Il faut le tempérer pour le porter à son état cristallin et lui assurer ainsi une surface dure et croquante alliée à un beau brillant. Certains confiseurs achètent leur chocolat déjà trempé, mais j'aime effectuer cette opération moi-même. Il y a une fascination inépuisable à manipuler les blocs ternes de couverture brute, à les râper à la main. Je ne me sers jamais d'appareil électrique. Dans les gros poêlons en céramique. Puis à faire fondre le chocolat, à remuer le mélange, à surveiller assidûment chaque étape avec le thermomètre à sucre jusqu'à ce que le mélange ait été exposé exactement à la quantité de chaleur nécessaire pour que s'effectue la transformation. Il y a une sorte d'alchimie dans la transmutation du chocolat brut en ce magnifique substitut d'or. Une magie profane que même ma mère aurait pu apprécier. Alors que je travaille, respirant profondément, je me remets les idées au clair. Les fenêtres sont ouvertes et le courant d'air qui passe serait froid. S'il n'y avait la chaleur des fourneaux, les casseroles en cuivre, la vapeur qui s'élève du mélange en train de fondre. Les senteurs mêlées du chocolat, de la vanille, du cuivre chauffé et de la cannelle sont enivrantes, puissamment suggestives. L'âcre odeur terreuse des Amériques, le brûlant parfum résineux de la forêt tropicale. C'est ainsi que je voyage à présent. Comme les Aztèques, dans leur rituel sacré. Le Mexique, le Venezuela, la Colombie, la cour de Montezuma, Cortés et Colombes, le nectar des dieux bouillonnant et moussant dans des coupes cérémonielles. L'âpre élixir de la vie. Donc c'est un extrait du chapitre 10 du roman. Et ce roman parle donc d'un petit village, donc à Lansquenet, petit village perdu quelque part en France. Mis à part les sempiternels sermons du sombre curé de la paroisse, il ne se passe jamais rien. Alors quand Viane Rocher et sa fille Anouk décide de s'y installer pour ouvrir une chocolaterie, c'est tout le village qui se met à jaser. C'est une lecture savoureuse où la tolérance et l'entraide deviennent des remèdes imparables pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes, où les mots donnent autant l'eau à la bouche que du baume au cœur. Laissez la magie du chocolat, mais pas que, opérer. En 2001, l'adaptation du livre par le Suédois Lars Hallström sort sur grand écran. À l'affiche, on retrouve Juliette Binoche et, tiens, à nouveau, Johnny Depp.
C'est une super sélection chocolatière, chocolatée et cinéma. Moi, j'ai hyper envie de goûter toutes ces choses. Merci, Florence. Et c'est maintenant le moment du quiz ou du moment quiz de cette émission. Et avant de proposer de nouvelles questions, Pascal, peut-on enfin avoir la réponse du quiz du Bibliosphère précédent?
Oui, alors vous rappelez Mathieu, donc, qui est à la Bibliothèque Saint-Nicolas, qui avait proposé un quiz autour des 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg. Un très bon documentaire, il avait fait une revue de presse hein, et sur France Télé. Donc, il était question du film « L'ours et la poupée », réalisé en 1969 par Michel Deville avec Jean-Pierre Cassel. Et la question, c'était ce film, ou plutôt un élément du décor du film, a un lien avec la ville d'Angers. Lequel d'ailleurs? Florence, as-tu une petite idée?
J'avoue que je sèche.
Eh bien, la réponse au quiz apparaît dans le décor d'une grande sculpture contemporaine réalisée par Yves Milquant, sculpteur et créateur de tapisseries d'art abstrait. Alors, tapisserie, on se rapproche d'Angers. Cette sculpture s'appelle Neptune et elle a été créée à l'atelier de recherche et création du mobilier national. Elle fait partie surtout de l'importante donation qu'a fait l'artiste au musée Jean Lursa et de la tapisserie contemporaine d'Angers en 2018. Musée, vous pourrez l'admirer dès qu'il rouvrira bien sûr ses portes. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil du quiz de Mathieu.
Très bien, et on a des nouvelles questions pour cette semaine.
Eh bien Florence, à toi.
Dans un autre genre. Alors, vous êtes prête? Tu es prête Marie-Pascale?
Oui, moi je suis prête.
Bon. Côté ciné, quel célèbre réalisateur a déclaré à propos de l'un de ses films
« Moi, au départ, je n'aimais pas le titre. On voulait le changer. J'avoue que c'est ma femme qui m'a dit « Mais tu ne te rends pas compte? Moi, un film qui s'appelle « Merci pour le chocolat », je vais le voir quoi qu'il soit. Mais c'est un titre formidable !» Alors, Pascal ?
Mais je sais.
Non, moi, je sais pas.
Très, très bien. Pas de problème. Eh bien, la réponse, c'est Claude Chabrol pour son film réalisé en 2000, Merci pour le chocolat. D'après le roman éponyme, Et merci pour le chocolat de Charlotte Armstrong. L'histoire d'une directrice d'une entreprise de chocolat suisse mariée à un pianiste de renom qui voit sa vie changée par l'arrivée d'une jeune pianiste virtuose qui pourrait être la fille du musicien. Avec au casting du film Isabelle Huppert, Jacques Dutronc et Anna Mouglalis.
Anna Mouglalis.
Voilà. Alors à mon tour, Florence. Le célèbre cake d'amour de peau d'âne contient-il du chocolat?
Alors, si, ben de mémoire, bien sûr, si je réfléchis, je dirais que les ingrédients sont... Farine, lait, sucre, beurre, miel, sel et levain. Non, pas de chocolat en vue, il me semble, si ma mémoire est bonne.
Oui, je pense que tu as raison, Florence. C'est beaucoup plus facile que mon quiz.
Donc, le long métrage sort en 1970 avec, s'il vous plaît, un casting français 5 étoiles. Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin et Delphine Seyrigue. La musique est de Michel Legrand. Sur des paroles de Jacques Denis.
Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours.
Et on peut peut-être lancer un petit quiz spontané, c'est que ce film Peau d'âne a été tourné en Anjou dans un château assez connu. Alors on vous pose la question, de quel château s'agit-il? Réponse à la prochaine émission.
Suspense. En attendant, si nous passions au côté aphrodisiaque de la force. Pour cela, voici une BD en 2 tomes, Fraises et chocolat, d'Aurélia Horita. Paru entre 2006 et 2007 aux éditions Les Impressions. Alors, Fraise et Chocolat, c'est le couple formé par Fred et Chanda. Ces derniers partagent une sexualité sainement débridée, sans tabou, mais où la tendresse des amoureux ne craint jamais d'émerger. Ludique, joyeux, aussi frais que franc, c'est à une lecture des plus sensuelles que nous invite Aurélia Horita. Et dans un tout autre genre, elle a notamment aussi illustré comme un chef une autobiographie culinaire de Benoît Peters, sorti en 2018 chez Casterman.
Ah, mais une lecture que je ne connais pas, donc c'est parfait.
À découvrir.
Et puis, pour terminer, on ne pouvait pas ne pas vous proposer une vraie recette d'une vraie maman qui s'appelle Patricia, qui a une recette de gâteau au chocolat et qui n'est autre que la maman d'Amélie.
Voilà.
Et qui va être avec nous quelque part avec cette recette. Parce que écrire des recettes, c'est aussi pratiquer l'écriture. Alors, à vos crayons. Préchauffez votre four thermostat à 150 degrés, thermostat 5. Faire fondre sur feu doux 150 g de chocolat avec 60 g de beurre. Ajoutez au mélange fondu 3 cuillères à soupe de farine avec un demi-sachet de levure. Retirez du feu, ajoutez 4 jaunes d'œufs, puis 100 g de sucre. Bien mélangé. Battre 3 blancs en neige et les incorporer au mélange. Beurrer un moule à manquer. Le placer au four et faire cuire le gâteau environ 15 minutes. Et bien sûr, Bon appétit.
Merci beaucoup pour cette recette. Je crois qu'elle s'annonce très fondante, très riche, très délicieuse. J'ai l'impression.
Forcément, le chocolat.
Forcément. Bon, merci. C'est la fin de cette deuxième édition de Bibliosphère. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur la page de l'émission, sur le site www.radio-g.fr. Il y aura le podcast ainsi que toutes les références des œuvres citées aujourd'hui. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Florence.
Merci
Annie.
Et le prochain rendez-vous avec Bibliosphère, c'est dans 2 semaines, mercredi 21 avril à 17h. D'ici
Bonsoir.
Là,
à bientôt.
Vive le chocolat.
Mm-hmm.